engage la foi, hein, demande une adhésion absolue. Quand c'est déclaré de manière définitive, ça demande une adhésion ferme. Donc, comme exemple, je vous ai dit, hein, le sacerdoce des femmes, c'est terminé de manière définitive. Par exemple, tout ce qui concerne l'avortement aussi. Donc le texte le précise. Donc l'interdiction de l'avortement. Lorsque c'est de manière non définitive, ça demande un assentiment religieux. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre une adhésion ferme et un assentiment religieux? Bon. Donc par exemple, vous voyez, les moyens artificiels de contraception d'humanité, c'est un degré moindre que ce qui a été dit avant. C'est intéressant de voir, de situer les textes selon leur niveau de force juridique. Et enfin, vous avez des textes de valeur prudentielle qui demandent un acquiescement loyal, respectueux. Par exemple, voilà, les conseils de l'Église en matière sociale, économique et politique et autres. Et là, à nouveau, vous avez au début du numéro 3, hein, la phrase que je viens de vous dire, le magistère ne se substitue pas aux consciences personnelles, bien au contraire, il se met à leur service. Voilà. Donc pour ce qui concerne notre propos, voyez, l'importance, c'est de savoir discerner. Lorsque quelqu'un parle, d'où il parle ? De quelle autorité il parle ? Ça, ça rend libre. Parce que ça nous permet de nous-mêmes de dire, tiens, là j'ai une marge, là j'ai pas de marge, là j'ai pas de marge. De toute façon, moi, si je veux être vraiment catholique, j'ai pas de marge. Voilà. Et de dire quand même que, ultimement, si je suis pas en désaccord, si je suis en désaccord, l'Église ne va pas me brûler. Simplement, elle va respecter ma conscience, mais elle va dire que mon point de vue n'engage que moi. Voilà. C'est pour ça que régulièrement, l'Église prend position pour dire, voilà, la position de l'Église, c'est ceci, et l'Église respecte les personnes dans leurs convictions personnelles. Et on distingue ce qui est proprement catholique de ce qui est l'ordre d'une conviction personnelle qu'on respecte, on ne va pas excommuner.
Mais c'est quoi du coup l'Église invisible, le tout homme qui fait le bien, enfin, ça, la grâce de Dieu, il appartient à l'Église.
Alors, donc, tout homme qui suit sa conscience de manière sincère et droite est sauvé par le Christ sans le savoir. Ça, c'est un texte de Gaudium et Spes. Donc ça, c'est une ouverture à la possibilité pour les non-croyants d'être sauvés. Voilà. Donc, alors, la question, c'est l'Église invisible. Alors, l'Église, elle est visible et elle est invisible. L'Église est mystère. Mystère, c'est le mot grec de sacramentum, sacrement. L'Église est sacrement. Donc l'Église, elle est à la fois visible, mais ce qui rend visible et l'invisible, c'est la hiérarchie. Donc il ne faut pas se dire, oh là là, il y a une Église invisible, donc moi je vais faire ce que je veux, je serai quand même de l'Église. Non, ce qui authentifie l'appartenance explicite à l'Église, c'est l'autorité de l'Église. Voilà. Alors, que Dieu intervient de manière cachée, même dans d'autres religions, pour proposer un chemin de salut, voilà, certainement qu'il le fait. Mais l'Église veut dire que dans l'Église catholique subsiste la plénitude du Christ, donc la plénitude des instruments du salut pour connaître le Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une présence de Dieu ailleurs, d'ailleurs Dieu fait ce qu'il veut, mais l'Église dit que dans l'Église catholique subsiste dedans, est dedans, voilà, l'ensemble des moyens pour connaître le salut, pour vivre le salut. Vous voyez, c'est très respectueux pour les autres religions. Mais l'Église croit que la plénitude du Christ, ben, c'est l'Église catholique qui le propose. Et ça, c'est quelque chose qui peut susciter notre adhésion, et non pas, elle n'est pas exclusive, elle est simplement une adhésion qui va respecter le chemin des autres dans les autres religions. Mais je dirais aux chrétiens de proposer la foi. On n'impose pas la foi, on la propose. Et c'est vrai que c'est mystérieux parfois l'expérience des non-croyants. Mais n'hésitez pas, je vous le dis ça à titre culturel, hein, avant tout, hein, d'aller rencontrer au moins une fois dans votre vie des hommes vraiment engagés dans d'autres traditions. Allez discuter avec un bouddhiste, un moine bouddhiste. Allez discuter avec un imam une fois. Pour voir, tiens, oui, pour voir, bah tiens, c'est vraiment pas ça. Moi, je me rappelle, j'ai passé un mois dans un monastère bouddhiste. Je me rappelle très bien, je sors du monastère, au bout d'un mois, mais ça m'a fait prendre conscience, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans l'Église catholique, on a une richesse incroyable, quoi, que j'ai pas vue là, du tout. J'étais très heureux de discuter avec ce moine, etc. Et je me dis, mais toutes mes aspirations profondes, je ne trouvais pas qu'elles pouvaient s'exprimer dans cette tradition. C'est tout, c'était ma prise de conscience. Et le fait de dialoguer avec des gens qui ne sont pas de la même tradition, ça nous fait aussi découvrir la force de notre tradition, la fraîcheur. Parce que, entre nous, hein, si vous étiez né en terrain musulman, vous ne seriez pas chrétien. Hein. C'est tout. Il faut être honnête. Vous seriez né à Bagdad, et vous seriez musulman. 95% de chances musulmans. Donc, quel est le chemin que doit faire, même chose, un musulman, pour découvrir la plénitude de la vie? Il doit entrer en dialogue. Lui aussi doit faire ce même chemin de dialogue avec toutes les grandes traditions. Et à un moment, de découvrir que, bah tiens, dans son cœur, ça résonne plus ça que ça. Entre guillemets, il doit suivre sa conscience. Il ne doit pas être pris en charge par sa tradition religieuse. Il doit suivre sa conscience et à un moment, il y a une révélation qui se fait en conscience. Oui, vraiment, le Christ est mon sauveur. Hein? Mais entre nous, vous seriez né au Tibet, vous seriez bouddhiste. Hein? Vous ne seriez pas chrétien. Donc, quel chemin, en tant que bouddhiste, vous auriez à faire? Ben, vous auriez à faire de chercher la vérité dans un dialogue avec toutes les grandes traditions et à un moment en conscience de dire, mais oui, le Christ pour moi, c'est vraiment le chemin de ma vie. Non pas simplement comme un héritage culturel, mais comme une révélation personnelle qui après vous fait adhérer encore plus librement et en conscience à l'Église catholique. Il y avait une question ?
Tu m'as dit, là on parle beaucoup aussi d'acquiescement, d'assentiment, enfin ça reste vachement
oui.
Et du coup, je me dis, qu'en est-il des actes qu'on pose? Est-ce qu'on peut vraiment adhérer à quelque chose, mais être en chemin, parce que finalement, on est tous en chemin. Et,
oui.
Et du coup, alors, est-ce qu'on ne peut pas être catholique à ce moment-là?
Non, non. C'est-à-dire que la foi, c'est un cheminement. C'est-à-dire, effectivement, d'un point de vue objectif, doctrinal, c'est ça. Après, du point de vue de notre cheminement personnel réel, ben, c'est du plus ou du moins. Hein. Ben, le résultat, c'est qu'on est peut-être plus ou moins aujourd'hui catholique. C'est peut-être ça le réel. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, mais c'est bien d'être cohérent avec soi-même, de dire, moi aujourd'hui, je suis comme ça. Mon réel, c'est ça. Ça, j'adhère vraiment. Ça reste pour moi encore un mystère. Donc il faut être honnête avec soi-même, en conscience. Et que petit à petit, c'est ça la force du cheminement, de l'étude, c'est que progressivement, moi personnellement, je peux dire, hein, je peux dire que tout ce que dit l'Église, j'y crois. Et de plus en plus. Je me dis, mais c'est exactement ça. J'aurais pas dit ça à votre âge. Et plus j'ai cherché, plus j'ai cherché, plus j'ai dialogué, plus je me dis vraiment dans l'Église, oui, il y a vraiment la plénitude du Christ qui est proposée. Elle cherche pour moi vraiment de me convertir et de le vivre. Ouais, ça c'est ma responsabilité. Mais j'ai toutes les questions très profondes, le salut par la croix. Au début, on se dit, mais c'est un peu bizarre quand même que le Christ me sauve par la croix. Oh, ça ne me plaît pas. Moi au début, je n'aimais pas ça. Mais non, le Christ me sauve par la croix. J'ai d'ailleurs fait ma thèse là-dessus, sur la croix, le salut par la croix. C'était tellement une question pour moi que j'ai voulu y répondre. Seul le Christ nous sauve que par sa croix. Et après, il nous introduit dans sa gloire. Voilà. Je vous donne un tout petit témoignage. Lorsque je suis allé à Jérusalem, essayez de faire ça une fois dans votre vie. Vous allez à Jérusalem, le soir, vous vous faites enfermer dans le tombeau de Jésus. C'est possible, hein, c'est pas rien d'extraordinaire. Donc vous avez l'anastasis, c'est là où il y a les petites chapelles en fonction des différentes religions. Et on peut après passer la nuit dans le tombeau. Et donc, moi j'étais avec 3 séminaristes de ma communauté, et on s'est fait mettre, les franciscains nous ont permis donc de passer la nuit dans le tombeau. Voilà. Voilà. Et donc, on prie, on est très pieux, hein. On n'a pas le droit de dormir. Donc de temps en temps, il y a un moine qui passe pour voir si on s'avachit. Et donc on passe la nuit là, en prière. Et au bout de 3 heures de prière, je lève la tête, et juste en haut, juste au-dessus du tombeau, il y a une phrase. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Et juste à ce moment-là, il y a un moine qui arrive, un moine orthodoxe, qui dit, c'était à ce moment-là que commençait leur liturgie, ils nous ont chassés, et plus ou moins gentiment, et on s'est dit, maintenant, allez, on va aller au Golgotha. Et donc, il y a une chapelle juste au-dessus, qui est la chapelle où il y avait la croix de Jésus. Entre le tombeau et la chapelle, il y a une grande église qui a enveloppé tout ça. Donc une fois dans votre vie, allez prier. Allez prier vraiment à la source de la foi chrétienne, au tombeau de Jésus. Et passez une nuit en prière. Et demandez au Seigneur de vous faire comprendre, de vous donner la grâce de qu'est-ce que c'est qu'être sauvé par la croix du Christ. Il vous la donnera peut-être là, il vous la donnera certainement ailleurs. Mais voilà, cherchez, vous trouverez. Mais celui qui ne cherche pas, il ne trouvera pas. Donc engagez-vous dans un chemin de recherche de la vérité, et la vérité vous rendra vraiment libre. Ce n'est pas simplement une recherche intellectuelle, c'est une recherche aussi qui engage votre cœur, votre être, et qui va vous faire passer de peur en peur. Vous allez partir à l'aventure. Oui, moi j'ai un frère de ma communauté. Il y a un an, et vraiment dans le Seigneur, il a dit, il faut que j'aille à Jérusalem à pied tout seul. Il est parti sans argent, sans rien à Jérusalem. C'est une aventure incroyable de partir de Paris, il va à Jérusalem à pied, en Turquie, Syrie, tout ça, il passe le Liban, à pied, sans rien, sans argent, s'abandonnant au Seigneur. Faites des expériences d'abandon au Seigneur. Ce n'est pas vous qui maîtrisez votre vie, c'est le Seigneur qui vous conduit. Et suivez le Christ. Et croyez que vraiment le Christ vous précède et vous accompagne. Et que ça, ce n'est pas simplement une foi culturelle, c'est une foi qui va engager tout votre être. Et ça, vous ferez vous-même l'expérience qu'il n'y a rien qui vous rend plus libre que ça. Mais ça, c'est à vous, c'est à chacun de faire son expérience. On ne peut pas imposer son expérience aux autres. Voilà. C'est simplement les inviter à suivre jusqu'au bout leur conscience personnelle. Vas-y, frère.
J'ai une question, mais c'était juste avant la pause, en fait, je voulais l'appeler, c'était juste là. Est-ce que c'est compatible la faillibilité et le fait de pécher?
La faillibilité de quoi?
Du pape, en l'occurrence.
Et d'être pécheur?
Ouais.
Que le pape est pécheur?
Oui.
D'accord, ok. Alors, tu sais comment est engagée l'infaillibilité? C'est très simple. L'infaillibilité, c'est pas le pape qui dit... Il se réveille le matin, il appelle Berton, il dit « Ouais, là, la crise financière, il commence à m'échauffer, là. Vraiment, purée, vraiment, j'ai des cupides, tout cela. Hein? Donc, je vais sortir une vérité infaillible, ça va les réveiller un peu tous. » Pas comme ça que ça se passe. L'infaillibilité, c'est l'Église pressant dans le peuple de Dieu une conviction qui émerge. Le dogme de l'Assomption, ça faisait 1000 ans qu'on en parlait. 1000 ans. Et donc cette vérité que la Vierge est montée avec son corps au ciel, ça, tout le monde, il y a beaucoup de traditions spirituelles locales qui en parlent, etc. Donc, on écoute une vox populi, vox dei. Et ensuite, on consulte tous les évêques du monde entier. On attend les réponses. Et après, le pape engage sa position. Il n'engagera jamais sa position si 80% des évêques ne sont pas d'accord. Entre guillemets, les évêques viennent confirmer la voix du peuple, le sensus fidei, le sens que le peuple a de la foi. Il vient le confirmer et lui vient ratifier tout ça. C'est ça l'infaillibilité. Donc on est loin d'un dictateur catholique qui s'éveillerait un matin et qui dirait franchement, ouais, on va tirer un pénalty, ça va les réveiller. Non. Vous voyez ? Donc c'est un mouvement de communion ecclésiale maximale. C'est bien l'Église qui, dans le nom du successeur de Pierre, s'engage. Mais c'est toute l'Église. Ici, l'Église, le pape représente, rend présent le mystère de la foi qui est prégnant dans toute l'Église. Ok ? Donc on voit bien que ça va être rare. Voilà, c'est tout. Ça répond un peu, hein ? Donc il peut être pécheur, mais l'Église est sainte en elle-même. Du moins, l'Église en son ensemble est sainte.